Grégory, Alexia, Laetitia, Maëlys, ce sont seulement des prénoms, mais ils convoquent tout un imaginaire. Des affaires criminelles qui prennent une large place dans nos journaux, à la télé, à la radio, sur Internet, et qui se transforment en feuilleton. Un feuilleton qu'il faut interroger. Parfois, c'est pas seulement un prénom d'ailleurs, mais un nom à rallonge qui devient glaçant. Xavier Dupont de Ligonnès. Notre fascination pour les crimes, pour les faits divers, est elle-même fascinante. Peut-on considérer que nous sommes tous accros? Et si oui, est-ce la faute des médias? Le fait divers fait diversion, affirmait Pierre Bourdieu. Il permet de ne pas parler du reste. Alors pourquoi est-il toujours un peu honteux d'aimer les faits divers? Les choses ont-elles changé en la matière d'ailleurs? Et que dire de leur omniprésence dans la littérature? Le fait divers est issu du réel, mais il est le support de l'imaginaire. Il a une dimension mythologique. J'attends vos réactions, vos questions sur la page du débat de midi franceinter.fr, sur l'application France Inter. N'hésitez pas à nous dire quelle est l'affaire qui vous captive le plus. Le fait divers, plaisir coupable, c'est la question qu'on se met sous la dent jusqu'à 13h.
Le débat du midi, Dorothée Barba, sur France Inter.
Et je vous présente sans tarder mes trois invités. Une professeure de littérature comparée qui a lu tous les romans sur les faits divers, un psychanalyste et un journaliste fait diversier. Bonjour Frédéric Toudouard sur la pierre.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes donc professeur de littérature comparée à l'université de Haute-Alsace, auteur aux éditions de Minuit d'un livre intitulé « Le fait divers et ses fictions ». C'est impossible en réalité de tout lire en la matière.
Oui, bien sûr. Ouais. Heureusement, d'ailleurs, je n'ai pas lu tous les livres sur les faits divers. Sinon, je ne sais pas si j'aurais survécu. Mais en
vous
revanche,
dormiriez mal, peut-être.
Oui, peut-être. Mais en revanche, j'en ai choisi certains, selon des degrés, d'ailleurs, qu'on pourra discuter. Parce que ce que vous disiez, effectivement, tous les faits divers, peut-être, ne se valent pas, en fait. À la fois dans leur contenu, puis aussi dans la façon dont les écrivains en parlent. J'en ai choisi certains, en fait. Aussi parce que si on est fasciné par les faits divers, peut-être il faut le savoir, mais il faut aussi s'en protéger.
On peut le questionner en effet. Patrick Avran, bonjour.
Bonjour.
Psychanalyste et écrivain. Faits divers, une psychanalyse, c'est le titre de votre livre publié au PUF, dans lequel vous vous appuyez notamment sur votre expérience clinique, parce que vos patients vous parlent de faits divers.
Parce que ça fait partie de la vie. Mm-hmm. C'est-à-dire que le fait divers, pour un psychanalyste, il fait exactement référence au lapsus, au rêve, un acte manqué. Le fait divers, c'est ce à quoi on ne s'attend pas dans la vie. C'est le mystère. On parle beaucoup des faits divers qui sont des crimes. Il n'y a pas que cela. Hein. Il y a aussi des faits divers de quelqu'un qui gagne 3 fois de suite au loto. Chose extraordinaire.
Tentative de définition d'ailleurs. C'est ce qui sort de l'ordinaire, un fait divers?
C'est ce qui sort de l'ordinaire, c'est l'inattendu. Et c'est en même temps ce qui peut nous toucher. C'est-à-dire tous les inattendus ne nous touchent pas. Hein. Et effectivement, les crimes... Alors, le fait divers d'origine, on pourrait dire, celui qui touche tout le monde, ce sont les crimes d'enfants. C'est la naissance du fait divers, c'est ça.
Et mon troisième invité est une figure du Nouveau Détective, journal hebdomadaire. Bonjour Michel Marie.
Bonjour.
Bienvenue, 40 ans de faits divers à votre actif, c'est ça?
C'est ça.
Comment qualifiez-vous ce journal, le Nouveau Détective?
Le Nouveau Détective, c'est un magazine qui a 90 ans, donc c'est déjà
un monument de la presse française.
Par sa longévité, quelque chose de sérieux. On est le seul organe de presse à ne traiter exclusivement que le fait divers. Fait divers et, je dirais, l'aspect judiciaire, c'est-à-dire tout ce qui est suivi de cours d'assises. On est le seul journal spécialisé à traiter le fait divers comme ça.
Vendu 1,70€ en kiosque. Je vous pose la question tout de suite, Michel Marie. Est-ce un journal racoleur?
Je ne pense pas qu'on puisse dire que ce soit un journal racoleur. C'est un journal qui a le courage de dire la vérité, une certaine vérité qui peut déranger. Mais c'est un journal qui dit la vérité.
Peut-être, d'ailleurs, est-ce un sujet d'étude mal perçu par vos pairs? Je pose la question à la spécialiste de littérature, par exemple Frédéric Toudouard sur la pierre. Est-ce que c'est bien vu parmi vos collègues d'étudier le fait divers?
Je ne sais pas si c'est bien vu, mais en tout cas, ce n'est pas beaucoup étudié, donc c'est vrai que c'est...
Déjà, ça en dit long.
Ça en dit long. Et c'est vrai que moi, j'ai fait un cours sur le fait divers avec mes étudiants, et j'avais pris soin, justement, de travailler sur des œuvres littéraires que j'avais choisies auparavant, et je voulais qu'il y ait une certaine qualité littéraire pour justement ne pas céder à la fascination totale. et ne pas être dans le voyeurisme, mais essayer de voir aussi ce que le fait divers pouvait comporter, notamment dans sa complexité. C'est vrai qu'il y a quelque chose de fascinant, et pour essayer de percer le mystère de cette fascination, il me semble qu'il fallait une matière littéraire intéressante, et notamment, il convient de faire attention aux images, à la qualité des images.
Patrick Avran, vous êtes un lecteur du Nouveau Détective ?
J'ai été un lecteur quand j'ai écrit mon livre, je ne le suis pas régulièrement, mais j'ai été surtout lecteur des brèves de faits divers. Le Nouveau Détective a la particularité...
C'est un concentré, 100% faits divers.
Un concentré 100% faits divers criminels, essentiellement. Les faits divers, il n'y a pas que des crimes. Il y a tout le reste. Mais je peux dire aussi, comme Madame le professeur, que parmi mes pairs, les faits divers, ils n'ont pas compris. Pourquoi je faisais un livre sur les faits divers. Ils avaient déjà eu du mal à comprendre pourquoi j'en avais fait un sur Sherlock Holmes, mais alors là, les faits divers...
Décidément tordu, ce psychanalyste. Allez, on se penche en détail sur notre soif de faits divers, juste après ça. Salted Caramel Ice Cream, une glace au caramel salé. C'était Métronomie sur France Inter. Jean-Baptiste Audibert signe la programmation musicale de cette émission préparée par Caroline Pommès, réalisée par Lola Costantini. Paul Percheron et Elisabeth Collet sont à la technique.
Le débat de midi, Dorothée Barba.
Et on parle faits divers aujourd'hui dans le débat de midi. Michel Marie, grand reporter au Nouveau Détective. Est-ce que vous savez vous-même ce qui vous passionne précisément dans les faits divers ?
Oui, je pense que ce qui m'intéresse dans un fait divers, c'est, et je suis probablement pas le seul, parce que la littérature s'y est quand même longuement penchée depuis longtemps, les télévisions, les radios. Moi, ce qui me fascine, c'est le passage à l'acte. C'est-à-dire comment quelqu'un qui est comme vous et moi, d'un seul coup, peut basculer dans l'horreur, commettre un crime. Et c'est vrai que pour avoir suivi de nombreux procès devant des cours d'assises, lorsque l'accusé se lève et que l'accusé va commencer à raconter à la fois sa vie et également les faits, c'est-à-dire son crime. C'est un moment de vérité, c'est un moment où on regarde ce type qui nous ressemble, qui a eu un parcours étudiant, universitaire, qui a été marié, qui pourrait être dans un autre temps notre ami ou notre copain ou notre collègue de travail. Et ce type, à un moment donné, pour des raisons multiples et variées, a basculé dans le crime, a commis un crime et passé à l'acte. Et c'est vrai que ces moments-là, c'est des moments... Alors c'est pas du théâtre parce que c'est la vraie vie, c'est des vraies histoires. Il y a des gens qui, enfin il y a au moins une personne qui a trouvé la mort dans ce dossier. Mais c'est vrai que c'est ce qui me fascine le plus moi en tant que chroniqueur judiciaire.
Ce type qui nous ressemble, venez-vous de dire. Alors je me tourne vers le psychanalyste Patrick Avran. Elle est passionnante cette phrase. Ce qui nous intéresse, c'est que l'agresseur ou la victime nous ressemble.
Est un homme ou une femme comme nous. C'est-à-dire que je me souviens très bien quand il y a eu le procès de Roman, les gens étaient étonnés Jean-Claude Roman. Mmh. C'est un homme comme nous. Il s'attendait à voir quelqu'un avec des sabots fourchus, une queue de diable. C'était un homme normal, entre guillemets, avec une apparence tout à fait normale, tellement normale qu'il a pu tremper son monde pendant fort longtemps. Effectivement, c'est une part essentielle du fait divers. C'est-à-dire, c'est aussi pour ça que ça nous concerne. Les acteurs de crimes sont des personnes qui nous ressemblent. Et les faits divers arrivent à des personnes qui sont comme nous.
On trouvera toujours d'ailleurs un lien à faire entre nous et les personnes impliquées dans le fait divers. Que ce soit une ville qu'on a connue, une victime qui a le même âge que nous, il y aura toujours un lien à trouver.
Il y a toujours un lien à trouver, c'est-à-dire que le fait divers qui nous intéresse le plus, c'est celui dans lequel on trouve un lien. Alors ça peut être, quand on est parent, un enfant qui disparaît, ça peut être aussi... Mais il y a des faits divers heureux, je vous en ai apporté un là par exemple.
Décidément, à Toulouse... c'est votre obsession à vous, oui. Le fait divers heureux.
Quand on est parent, on peut s'identifier à ça aussi. À Toulouse, tombé du 3e étage, un bébé de 18 mois se fracture le bras.
La chute est belle. Mmh. Hein. Frédéric, tout doigt sur la pierre. On se projette dans qui exactement quand on s'intéresse à un fait divers?
Oui, non, j'allais réagir. Mmh. Effectivement, je ne suis pas sûre qu'au départ on aime les faits divers parce que cela nous ressemble. Je pense qu'au contraire, ce qui nous intéresse dans le fait divers, c'est que au départ, c'est loin de nous. Moi, je pense que c'est ça qui nous fascine. Mmh. On regarde ça vraiment d'un œil voyeur parce qu'on est un peu, voilà, ce que j'appelle une pose de l'ego, pour nous, on observe ça.
Et d'ailleurs, c'est rassurant parce que c'est quelque chose qui ne m'arrive pas à moi, que je suis en train de lire.
Voilà, c'est parce que souvent, ce sont certains milieux sociaux, on les observe, et en fait, c'est toute la perversité, je trouve, du fait divers, c'est qu'effectivement, on trouve les moyens de se projeter, de s'identifier, ou également de ressentir des affects, que sont la sympathie. Il n'y a rien de plus terrible, par exemple, parce que vous rappelez l'affaire Jean-Claude Roman, mais il n'y a rien de plus terrible que dire, mais finalement, le plus terrible, ça serait de dire, mais dans le fond, ce type pourrait être sympathique. Et moi, je l'aurais croisé dans la rue, je n'aurais pas du tout tapé dessus, mais non, j'aurais... Voilà. Et donc, du coup, il y a une dangerosité du fait divers qui vient de cette propension à susciter comme ça des affects inattendus.
La dangerosité du fait divers, c'est celle aussi à laquelle s'exposent les écrivains qui se penchent sur un crime en particulier. On pense à Truman Capote, par exemple. Ça a été très perturbant pour lui d'écrire de sang-froid.
Oui, justement, c'est ça qui est très, très intéressant. C'est aussi parce que les personnalités, alors elles ont l'air simples, les personnalités des tueurs. On dit c'est un crime, alors on complie un crime, ça bascule, mais non, c'est beaucoup plus complexe et c'est des personnalités beaucoup plus profondes et beaucoup plus complexes. Et en fait, l'écrivain, des personnalités, j'ai envie de dire charismatiques, et l'écrivain va s'approcher de ces criminels souvent et en fait, il va basculer. C'est ce qui arrive à Truman Capote. En fait, au départ, il veut simplement faire un petit compte-rendu sur. Il veut savoir quel est l'impact dans le Kansas de ce crime. Et il part dans le Kansas et en fait, les criminels sont attrapés et il rencontre notamment Perry Smith et il s'attache à lui. Et la description qu'il fait de Perry Smith, il est petit, il boite. Il dit c'est mon double monstrueux et il y a rien de plus attachant. Et en fait, toute l'ambivalence du fait divers vient qu'on est partagé entre la sympathie, parce que le lecteur, il passe aussi un certain nombre d'heures avec ce personnage. Donc il s'attache. Et entre notre répugnance morale, nous réprouvons tous les crimes, bien sûr, moralement. juridiquement, et en même temps la sympathie qu'on peut ressentir pour ces personnages. Et Truman Capote, lui, s'est attaché, je dis personnage, mais lui, aux personnes réelles.
Si j'avais su ce que j'allais avoir à endurer au cours des 6 ans qui m'a pris ce livre, je n'aurais jamais commencé à l'écrire.
Hein, oui, ce qui est fascinant également, c'est que Truman Capote écrit un des grands romans de la littérature américaine, et probablement que la naissance de la littérature américaine vient de là. Donc, du coup, évidemment, par rapport à ce qu'on disait, est-ce qu'on a un regard sur les faits divers un petit peu supérieur? En même temps, ça, bien sûr, c'est une matière, c'est le plus noir de l'être humain. C'est ce que François Bon appelle la capacité du pire, et en même temps ça produit des merveilles littéraires. Donc il y a aussi cette ambivalence, enfin, que le plus noir produit quelque chose de merveilleux.
Patrick Avran.
Ce que pourrait vous dire un psychanalyste, c'est que le fait divers, il réalise ce que nous interdisons le plus, c'est-à-dire qu'il y a la sortie dans un fait divers de ce que nous appelons, ce que les psychanalystes appellent le désir refoulé. Qui n'a jamais eu envie à un moment ou à un autre, sans se le dire, de tuer son voisin parce qu'il faisait trop de bruit. Et en même temps, ce qu'arrivent à faire les écrivains, c'est sublimer ça, c'est-à-dire en faire quelque chose qui devient quelque chose qui peut se transmettre à d'autres, et pas simplement sous une forme voyeuriste, c'est-à-dire en expliquant ce qu'il en est. Et par là, ils expliquent les ressorts qui sont propres à chacun. Nous avons au fond de nous-mêmes quelque chose de criminel, que nous interdisons. La loi, c'est effectivement la loi, mais pas la loi juridique, la loi des hommes.
Alors, en ce sens, le fait divers a la même fonction aujourd'hui que la tragédie grecque en son temps, Patrick Avran?
Sans doute. Je pense, oui, qu'effectivement, ça a une fonction à peu près similaire. À la différence près, c'est que le fait divers, il est laïque. Et que le fait divers est né à partir du moment où on n'a pas pu donner d'explication venant de l'au-delà des faits divers. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, alors je vais prendre à nouveau pas un fait divers de crime, un veau qui naît avec deux têtes...
Allongez-vous, on va en parler, Patrick.
Alors, un veau qui naît avec deux têtes, c'est pas un sort qui a été jeté au fermier ou sur la vache. Bon, c'est... la génétique ou je ne sais quoi. Le fait divers est né à ce moment-là. Précisément à ce moment-là, c'est dans l'histoire du journalisme et de la littérature, le fait divers est né en même temps que les premiers journaux à grand tirage, c'est-à-dire dans les années 1860.
Et pour en revenir à l'intitulé de notre émission, diriez-vous que c'est un plaisir coupable, le fait divers, Patrick Avran?
Je dirais que si c'est trop un plaisir, on peut s'en sentir coupable, ce qui ne veut pas dire que c'est un plaisir coupable. Je pense que le fait divers n'est pas plus un plaisir coupable que nos rêves. Dans nos rêves, nous faisons ce que nous n'aurions jamais faire dans la vie.
Et que nous pensons ne pas avoir envie de faire.
Absolument. Le fait divers est du même ordre.
Michel Marie, plaisir coupable?
Moi, je plaide non coupable.
Reporter au nouveau détective, je le rappelle.
Je plaide non coupable. Je pense que le fait divers peut induire une sorte de malaise. On se sent dérangé de s'intéresser à quelque chose d'horrible.
D'ailleurs, est-ce qu'on a honte d'aller acheter votre journal en kiosque en 2019?
Alors ça, j'en sais strictement
Patrick
rien.
Patrick Avran dit oui.
Je vais vous raconter quelque chose. J'ai acheté un jour, quand je faisais ce livre, c'est un petit village dans lequel j'ai l'habitude d'aller en Auvergne, bon bref, la marchande de journaux me l'a plié dans la montagne, elle m'a dit celui-là je ne veux pas
le voir. Elle l'a caché dans le journal local.
Elle l'a caché dans le journal local. Je lui ai dit pourquoi, il est devant vous dans le kiosque. Oui mais celui-là, moi je ne peux pas le voir.
Mais c'est pas
elle
une
voulait
bonne
vous éviter, c'est en famille donc.
C'est pas une bonne commerçante.
Michel Marie.
Un libraire doit vendre tous les...
Ah mais elle vendait tout. Mais sur ça, je pense que c'était surréagir. Parce que quand on lit votre journal, il n'est pas si terrible que ça.
Je peux peut-être donner les titres qui sont à la une cette semaine. Oui. Il tue sa petite sœur de 17 coups de couteau. Citation, je l'ai fait pour que maman souffre toute sa vie. Un coup de pelle à 500 000 euros. Sourde et muette, elle désigne son meurtrier avec ses mains. Leïla, la morte de trop. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de morts à la une.
Ah oui, parce qu'une fois de plus, on est un journal très spécialisé dans le fait divers. Et si on regarde l'équipe, il y a beaucoup de matchs annoncés, de handball, de football, de rugby et de tennis.
Avez-vous parfois l'impression de céder au sensationnalisme?
Personnellement, non. Moi, j'essaye de faire mon travail le plus honnêtement possible.
Et sur la culpabilité, alors, est-ce que les choses ont bougé à votre avis? Est-ce qu'on se sent moins coupable aujourd'hui qu'hier de s'intéresser à ces affaires-là?
Alors moi, j'ai pas le sentiment qu'on se sentait coupable hier de s'intéresser à ces choses-là, donc j'ai du mal à vous dire si on a évolué de ce côté-là. Moi, la culpabilité de s'intéresser aux faits divers, elle m'interroge.
C'est une manière de se boucher le nez, peut-être.
C'est une manière de se boucher le nez, tout en laissant un peu d'air passer pour quand même respirer un peu l'odeur du crime. Je pense que La littérature, et c'est une évidence, se passionne pour le fait divers et va puiser dans le fait divers de nombreux ouvrages. Il n'y a pas une chaîne de télévision aujourd'hui qui n'a pas une émission de fait divers. Les radios font des podcasts.
On va en parler dans un instant d'ailleurs.
Avec les faits divers. Le fait divers intéresse les gens. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est comme ça. Et je m'en réjouis parce que moi j'essaye de raconter mes faits divers, ce que je suis amené à enquêter, de la façon la plus claire possible. Et je trouve pas ça anormal que les gens s'intéressent à des crimes qui sont commis par des gens qui leur ressemblent.
Quelques réactions d'auditeurs qui nous parviennent. Cyril écrit ceci, je ne m'y intéresse absolument pas, je trouve ça hyper anxiogène et je pense qu'ils sont beaucoup trop médiatisés. Réaction intéressante d'Irène également, il y a des faits divers qui sont en fait des faits de société, écrit-elle. Pensons aux féminicides traités trop longtemps comme des crimes passionnels. L'expression en tant que telle était dérangeante, comme si la passion était un moteur du crime. Voilà, ça empêche toute analyse de fond, dit-elle, que de traiter le fait divers comme un fait divers et non pas comme un fait de société. Frédéric Taudois sur la pierre.
Oui, justement, c'est ce que disait Bourdieu quand, avec sa formule le fait divers, fait diversion. En fait, il disait que quand on s'intéresse au fait divers, il voulait dire finalement, ça n'intéresse pas aux vraies problèmes de société. Moi, je pense qu'au contraire, non, le fait divers est un symptôme des sociétés. C'est pour ça qu'il est vraiment qu'il est intéressant. Et d'ailleurs, on voit aussi qu'il y a une évolution. Je trouve que on parlait la culpabilité par rapport aux faits divers. Je trouve qu'il y a vraiment une évolution du paradigme. Mmh. Je pense que et le travail des écrivains, le travail des journalistes a œuvré en ce sens. C'est-à-dire que au départ, je pense que c'était quand même un plaisir effectivement un peu honteux, mais on voit quand même qu'il y a eu une institutionnalisation. Et que ce type de figure, ce type de personnage, parce que finalement, qu'est-ce que c'est que le fait divers ? C'est un personnage complètement ordinaire qui passerait complètement inaperçu, qui va se trouver mise sur une scène en avant et d'une manière extraordinaire. Et donc, vous disiez, c'est l'écho de la tragédie grecque, c'est le contrepoint de la tragédie grecque. Le héros de la tragédie grecque, il a un destin hors norme, il est tout surdimensionné de toutes parts. Alors que
donc, c'est l'inverse, c'est la normalité.
En fait, l'essor du fait divers, c'est ça, c'est le personnage ordinaire qui arrive sur la scène aujourd'hui. Et il me semble que l'essor du fait divers aujourd'hui, ça dit aussi une forme de démocratisation, paradoxalement, une forme d'institutionnalisation de ces phénomènes ordinaires, en fait, de la vie. Et les écrivains contribuent à ça. Et c'est pas un hasard s'il y a des grands écrivains qui ont écrit aussi sur les faits divers, ce qui nous force à relativiser.
Mais la littérature essaye-t-elle de donner un sens à des événements qui semblent insensés finalement?
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, on se dit, quand on lit sur les faits divers, on se dit, les écrivains vont vouloir donner du sens, et notamment donner de la vérité. Et d'ailleurs, je pense
trancher, choisir son camp.
Et je pense que c'est peut-être aussi, on pourrait dire, l'ambivalence du pacte de lecture. Le lecteur, lui, il veut des réponses, il veut comprendre, il veut savoir le secret, il veut savoir qui est le criminel, comment ils s'y sont pris, pourquoi, est-ce qu'il a touché la rançon. Et en fait, quand on lit sur les faits divers, on se rend compte que les écrivains vont s'intéresser à autre chose et vont au contraire montrer la complexité des existences. Et il me semble que on lit plus pour savoir, et finalement on apprend plus quelle était la personnalité et des victimes et du criminel que finalement sur les mobiles et sur les raisons. Et donc ce passage à l'acte dont on dit qu'il fascine finalement reste mystérieux. Et
enfin, le romancier aussi se heurte, ou la romancière se heurte à l'incompréhensible.
Oui, mais peut-être qu'il n'est pas là pour apporter la vérité. Mmh. Et en fait, il me semble que il n'est là ni pour rétablir la justice. Peut-être que le lecteur voudrait ça, parce que le fait divers, on veut banaliser, mais c'est au départ une injustice, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a colère, bien et sûr. C'est pour ça qu'il y a révolte. C'est quand même un crime, ou en tout cas une injustice, et on voudrait rétablissement de la justice. Et la littérature n'apporte pas ça.
Michel Marie.
Je pense que c'est très juste ce qui vient d'être dit. Et c'est la différence entre mon métier et son métier. Mon métier, c'est...
Ou celui d'Emmanuel Carrère, ou de tous ces romanciers qui se penchent sur les faits divers.
Les écrivains font un roman, ils peuvent s'arranger avec la vérité, même s'ils partent sur une base d'un fait divers qui a existé. Le journaliste, le chroniqueur judiciaire, il est dans une cour d'assises et il écoute le président, les différentes parties, l'avocat général, les avocats des parties civiles ou de la défense, les accusés et les témoins. Et ensuite, son boulot, c'est de faire un compte-rendu d'audience. Donc là, il n'y a pas de place pour la fantaisie ni pour l'invention. On raconte un dialogue, on retranscrit un dialogue. On reporte, en fait, ce qui s'est passé dans cette cour d'assises, on le raconte à nos lecteurs.
D'ailleurs, j'imagine que c'est une question qu'on vous pose souvent, Michel Marie. Est-ce que c'est vraiment vrai, tout ce qu'il y a dans Le Nouveau Détective?
Je viens de vous répondre par anticipation.
La curiosité, je vous la pose pas directement, mais la curiosité des gens sur la véracité, elle existe.
Oui, elle existe.
Parfois, on se demande si c'est possible à ce point-là, quoi.
Elle existe, on me l'a posée. Je réponds invariablement la même chose.
Tout est vrai.
Je n'ai pas besoin d'inventer. La réalité est quelquefois, et souvent d'ailleurs, bien pire que toutes les imaginations qu'on pourrait avoir.
Patrick Avran.
Ça fait partie de la fascination du fait divers. C'est-à-dire qu'on se demande comment est-ce que c'est possible. C'est-à-dire que le fait divers, c'est aussi en général ce qu'on n'avait pas jamais pu imaginer.
C'est la fiction qui surgit dans le réel.
C'est la fiction qui surgit dans le réel et c'est l'impossible de la fiction. C'est-à-dire qu'il y a des fictions qui nous semblent banales. Et là, c'est quelque chose. Et je pense effectivement, moi-même, en lisant Le Nouveau Détective, je me dis, je n'aurais jamais pu imaginer que ça puisse exister. Et je pense qu'on peut vous poser la question.
D'ailleurs, vous faites un lien dans votre livre, Patrick Avran, entre le fait divers et les contes, Peau d'âne, La Belle au Bois dormant et d'autres. Quel lien précisément faites-vous?
Le fait divers, parfois, c'est un conte. Alors, vous allez dire que je raconte toujours des histoires qui ne sont pas de
criminels. Je le dis et je le répète.
C'est parfois des contes réalisés. Un conte réalisé, j'en ai un autre là, une histoire assez extraordinaire. C'est un homme qui sort du coma grâce au chant du stade. Il était dans le coma. Il était considéré comme irréversible depuis un certain temps. Et à ce moment-là, ses amis, c'est un fait divers anglais, hein. Ses amis footballeurs ont chanté autour de lui le chant de son équipe. Ça l'a réveillé. C'est quoi? C'est La Belle au Bois dormant.
Vous trouvez pas que Le Nouveau Détective manque de belles histoires comme celle-ci?
Mais je crois qu'il y en a quand même dans Le Nouveau Détective.
J'en ai
vu. Des résurrections plutôt que des morts.
Je pense qu'on fait des résurrections, mais je sais pas si c'est une résurrection. Là, ça peut aussi être quelque chose de médical non expliqué.
Absolument. Mais ça devient un fait divers justement parce que c'est non expliqué.
Oui, enfin c'est entre le fait divers et le fait de société.
Il y a aussi deux autres différentes caractéristiques des faits divers. Il y a des faits divers qui se suffisent à eux-mêmes en fait, et donc là ils sont autotéliques. Une fois qu'on a dit, donc je sais pas, ils se trompent de numéro et gagnent au loto une somme merveilleuse. Une fois qu'on l'a dit, l'effet est immédiat mais en même temps passé. En revanche, il y a des faits divers, j'ai envie de dire, plus à succès, c'est-à-dire qui ont des rebondissements,
des feuilletons.
Et d'ailleurs, on voit que du coup, c'est toute la contribution de la société aussi qui participe, c'est-à-dire à quel point l'enquête va donner lieu à ces rebondissements.
Voilà qui rejoint ce qu'écrivait Roland Barthes. Le fait divers est une information totale, écrivait-il, ou plus exactement immanente. Il contient en soi tout son savoir, pas besoin de connaître rien du monde pour consommer un fait divers. Il ne renvoie à rien d'autre qu'à lui-même. Finalement, lire la page fait divers, c'est fuir la complexité du monde, Frédéric Todor sur la pierre.
Je pense que c'est le fait divers est populaire en fait, au bon sens du terme. En fait, c'est vraiment il concerne le peuple. Et en fait, effectivement, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études en sciences politiques. Des fois, on entend des informations sur les banques, les assurances, les marchés financiers. On n'y comprend rien. Et en fait, il y a aussi une autre donnée du fait divers très probablement, c'est que le fait divers est là pour faire parler. C'est vraiment c'est un moteur social dans le sens où il permet de faire une conversation. Et donc, il noue conversation et il fait conversation. Et donc, pourquoi il est populaire? Parce qu'il permet à tous, finalement, de s'exprimer. Quel que soit votre bagage, vous pouvez réagir sur l'affaire Estelle Mouzin ou l'affaire Jean-Claude Roman. Enfin, voilà.
Et donc, mais d'ailleurs, ça crée une confusion qui est un peu gênante parce qu'on n'est pas magistrat, on n'est pas avocat. Qu'est-ce qu'on peut savoir ou avoir à dire sur cette affaire?
Et ben ça dit enfin on peut justement qu'est-ce qu'on fait, on active en fait une des données justement qui est aussi présente dans les procès, c'est la question de l'intime conviction. Le fait divers, c'est vraiment le royaume de l'opinion, parce qu'en fait on peut dire moi je pense que c'est le père qui a tué, ah non moi je pense que c'est la sœur, non c'est le frère de la sœur et il a aidé avec un tel, et donc ça permet vraiment ça relève de l'intime conviction, et donc c'est pour ça que ça libère une parole qui peut évidemment complètement dégénérer, être exagéré, caricatural et emballé.
Est-ce que vous dites marche à plein en ce moment avec l'affaire Alexia Naval?
Ah oui, où il y a encore des...
Il y a l'effet feuilleton, il y a l'effet on a tous un avis.
Et aussi
Michel Marie. pardon.
Oui, non, je voulais juste dire que pour avoir une intime conviction, il faut avoir une connaissance et une bonne connaissance de préférence du dossier. Et c'est vrai que quelquefois...
Vous regrettez, j'écoute... vous, que tout le monde ait un avis sur les faits divers, Michel Marie?
Non, je regrette pas, mais en fait, c'est vrai que j'écoute quelquefois les conversations, soit dans le taxi, soit dans un bistrot, et pas forcément celui du commerce. C'est quelquefois affligeant d'entendre des gens asséner des vérités sur un dossier qu'on connaît bien et les entendre dire autant de sottises. Après, s'ils se forgent leur intime conviction sur ces sottises, c'est embêtant.
Allez, il faut parfois savoir faire une pause, interrompre sa réflexion sur les crimes atroces dont l'humanité est capable et laisser entrer le soleil. Il est midi 35 sur France Inter.
Taxman's taken all my dough and left me in my stately home, blazing on a sunny afternoon. And I can't sail my yacht, he's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me. And I love to live so pleasantly. Live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon. Help me, help me, help me sail away. Oh, give me two good reasons why. Live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime. Ah, oh, save me, save me, save me from this. So pleasantly. Live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime.
Sunny afternoon, c'était les Kinks en 1966. On parle de faits divers avec mes invités du jour et je voudrais vous conseiller un savoureux podcast.
3-2.
Notre société aime les corps jeunes.
Le mal existe.
Alors je vous explique.
Oui.
Les anciens occupants de mon appartement m'ont raconté qu'un serial killer avait habité dans l'immeuble.
Oh là là.
C'est l'affaire Thierry Paulin, vous vous souvenez de cette affaire?
Thierry Paulin, non. Mais ça me dit quelque chose.
Ils étaient deux. Ouais, ils étaient deux. Thierry Paulin.
Jean-Thierry Mathurin.
Il y a eu, à une époque, toute une série de meurtres.
De crimes presque de masse.
Le tueur de vieilles dames a alimenté une véritable psychose.
Thierry Paulin, c'est peut-être le plus grand criminel de toute l'histoire judiciaire française.
Il y a aussi les journaux télévisés de l'époque.
Il filait ses victimes jusque chez elles, il les torturait pour leur faire avouer où elles avaient caché leurs économies, et puis il les tuait en les étranglant.
Jean-Thierry Mathurin a-t-il vraiment habité dans mon immeuble? Qui étaient ces tueurs? Pourquoi tuait-il? Que sait-on des victimes? Que reste-t-il de cette histoire près de 35 ans après les faits? Je vais commencer par mener une enquête dans mon immeuble, puis je retournerai sur chacun des lieux de crime dans l'Est parisien.
J'en ai la chair de poule. Bonjour Julien Cernobori.
Bonjour Dorothée.
Vous êtes l'auteur de ce podcast complètement addictif qui porte votre surnom, il s'appelle Cerno. Et vous êtes donc parti sur la trace des victimes de cet assassin qui a vécu dans votre immeuble. On dirait que vous prenez un malin plaisir à vous faire peur, Julien.
Bah oui, en fait, disons que quand j'ai emménagé dans mon appartement, comme je le disais il y a 8 ans, les gens qui m'ont, le jour où j'ai eu les clés, si vous voulez, les gens m'ont dit un serial killer a vécu dans votre immeuble. Et en fait, pendant 8 ans, j'ai pas réussi à trouver d'informations là-dessus. Et ça a eu le temps, en fait, de la sauce a eu le temps de monter, en fait. Et j'arrêtais pas de me poser des questions. J'ai dit, mais qui c'est? Et j'ai eu la réponse. En fait, c'était le complice de Thierry Paulin, Jean-Thierry Mathurin. Et du coup, ça m'a vraiment donné envie de me replonger dans cette histoire et de retourner en fait sur chacun des lieux de crime, en fait.
Alors,
en commençant par mon immeuble.
Bien sûr, c'est pas une enquête, hein, c'est une anti-enquête. Ça vous offre l'occasion de parler aux gens finalement. Vous demandez à un coiffeur comment il va, vous dites à un monsieur qui vous offre un café qu'il a l'air très sympa, vous prenez des nouvelles de ce type qui vient de tomber à roller dans la rue. Le fait divers est-il un prétexte, Julien Cernobori?
Alors, ce fait divers m'intéresse particulièrement parce que je trouve qu'il raconte bien la société, en fait, hein, la place qu'on accorde aux personnes âgées ou même la place des femmes, en fait, dans la société, parce que c'est quand même un immense féminicide, cette affaire Thierry Paulin. Mais c'est vrai que je vais voir ce qui se passe à côté. En fait, je prépare pas vraiment. J'y vais un peu comme d'une façon improvisée, en fait.
Il y a un dilettantisme qui est assez savoureux, en effet, dans chacun des épisodes.
Voilà. Et en fait, je me rends sur les lieux de crime, micro ouvert, et j'essaie de voir ce qui se passe aujourd'hui. C'est d'entrer dans les immeubles qui sont ultra sécurisés et voir ce qui se passe et qui je rencontre. Est-ce que je peux avoir quelques renseignements sur les victimes? Si j'en ai, tant mieux. Si j'en ai pas, tant pis. Parce que c'est aussi, effectivement, comme vous le dites, un prétexte pour parler de la vie, en fait. La vie d'aujourd'hui, en fait.
Ne laissez pas traîner vos grands-mères. Glissez-vous d'un ton malicieux. Vous êtes un peu sadique, en fait.
Non, parce qu'en fait, je pense que vraiment, je veux vraiment que les auditeurs s'interrogent
et qu'ils laissent pas traîner leur grand-mère.
Sur la place des personnes âgées, en fait, dans la société.
Combien d'épisodes prévus en tout de ce podcast Cerno?
Alors en fait, j'essaie d'épuiser l'affaire, ça que je vais.
Vous allez l'essorer.
J'ai pas de limite, c'est-à-dire que ça va faire peut-être 50 ou 100 épisodes. Vraiment, je me laisse le temps, c'est une anti-enquête, donc je prends mon temps, je vais voir tout ce qui est à côté, et j'emmène mes auditeurs avec moi.
Voilà,
dans cette histoire.
Un nouvel épisode disponible chaque dimanche, je crois, c'est ça, hein?
Chaque dimanche, en effet.
Et c'est à télécharger sur toutes les applications de podcast. On conseille aussi Super Héros, d'ailleurs, au passage, votre série de podcasts produite par Binge Audio qui raconte les histoires extraordinaires de gens ordinaires, finalement. Merci beaucoup, Julien Cernobori.
Merci à vous, Dorothée.
Et très belle journée à tous. À vous. Bonne journée à vous. L'affaire Thierry Paulin parle évidemment à Michel Marie, grand reporter du Nouveau Détective.
Ouais, j'ai beaucoup travaillé sur cette histoire, que ce soit sur Thierry Paulin, également sur Mathurin. C'est vrai que c'est pas hier, et à l'époque, la police n'avait pas les moyens techniques et scientifiques surtout pour mener leurs investigations, parce que aujourd'hui, c'est plus possible, hein, une série de crimes comme ça.
Si vous avez des infos pour Julien Cernobori, surtout vous l'appelez, hein, pour alimenter le podcast.
Je pense qu'il habite dans le 14e arrondissement.
Non, c'est près de la gare du Nord.
Ah, c'est la gare du Nord, ouais. Parce qu'il a des... Mais le Mathurin avait été arrêté dans le 14e arrondissement.
Là, c'est le complice. Hein. Oui, non, c'est ça.
Mathurin, c'est le complice.
Oui, c'est le complice de Paulin.
Il est sorti.
Non, parce que Mathurin, je crois
dans,
qu'il
dans
est
un
sorti.
Des postcards, il dit qu'il s'inquiète. Enfin, une des dames s'inquiète.
Je crois qu'il est sorti parce que c'est maintenant très vieux. Il avait été condamné comme complice. Par la cour d'assises, mais en même temps, il n'y avait pas d'auteur principal, puisque Paulin était mort avant de comparaître devant la cour d'assises.
Frédéric Toudouet-sur-la-Pierre, je rappelle que vous êtes spécialiste de littérature consacrée aux faits divers. C'est intéressant, cette manière de vouloir épuiser un fait divers. Il peut en faire une centaine d'épisodes, dit-il.
Oui, puis ce qui est aussi intéressant, c'est le fait divers auquel il s'intéresse. Alors pourquoi? Parce que d'abord, il y a une coïncidence biographique. Donc, Mathurin aurait vécu dans son immeuble. Et puis aussi, ce qui est intéressant, je trouve, c'est la distance temporelle. C'est-à-dire, c'est un fait qui a eu lieu il y a 35 ans. Et du coup, ça donne une deuxième aussi. Je me demande si le fait divers aussi, c'est pas une façon façon de donner une mémoire, de se donner une mémoire collective commune. Hein, c'est l'affaire Grégory, par exemple, ça aura duré 35 ans, ça fait quasiment, c'est plus d'une génération, et qui nous aura nourris collectivement. Et donc, quand Cernot fait ça, et d'ailleurs on voit, il part aussi bien à la recherche, j'ai envie de dire, sur les traces du criminel que sur celles des victimes, hein, puisqu'il va,
surtout dans, les victimes d'ailleurs. Ça c'est intéressant. S'intéresse-t-on suffisamment aux victimes quand on parle de faits divers ?
Et puis on voit bien aussi qu'il trouve, qu'il utilise en fait une des fonctions du fait divers, c'est de faire parler, puisqu'en fait il rencontre les gens, j'ai envie de dire, sous le prétexte du fait divers. Et en fait il mène son enquête et c'est une façon de parler et de parler d'une période en fait. Et du coup il y aurait peut-être quelque chose aussi de nostalgique. Enfin, on trouve qu'il y a une sorte de, une donnée nostalgique dans le fait divers. Alors, ce qui est une façon, évidemment, j'ai envie de dire, d'esthétiser aussi le fait divers. Là, le podcast en soi, c'est une transformation, évidemment.
La question se pose, évidemment, aussi pour tous les écrivains, pour toutes les romancières qui écrivent bien sur le fait divers. Comment faire du beau avec du sordide ?
Oui, Michel Foucault parlait de beauté morale à propos de l'affaire Pierre Rivière. Enfin, il avait cette expression, évidemment, qui pouvait passer... paraître choquante, mais c'est ça aussi. Et d'ailleurs, ce qui intéressait Foucault, c'est qu'il voyait une proximité entre l'écriture et le crime. Et Pierre Rivière, justement, qui avait commis ces crimes et qui avait eu envie d'écrire l'histoire de son père, et il voyait profondément une analogie entre les deux. Et on disait tout à l'heure, hein, cette idée de le fait divers, c'est finalement, ce sont ceux qui passent à l'acte. En fait, les écrivains, eux, passent à l'acte avec l'écriture et montrent la proximité, en fait, de ce qui peut... Enfin, disons, j'ai envie de dire, la puissance aussi performative. C'est-à-dire que, dans le fond, écrire sur le fait divers, c'est aussi une façon de passer à l'acte.
Patrick Avran, vous allez encore nous parler d'un fait divers heureux ?
Non, mais non. Ce que je vais vous dire, c'est qu'on a le matériau brut du fait divers que l'on peut trouver dans Le Nouveau Détective, et puis après, il y a des écrivains qui peuvent en faire quelque chose de sublimé. Mais surtout, entre les deux, il y a ce que l'on en dit. C'est-à-dire que le fait divers, il a cette faculté de nous faire parler, que ce soit dans un bistrot, dans un taxi, même si on dit des bêtises dessus.
C'est un créateur de lien social.
C'est un créateur de lien social, c'est un créateur d'imaginaire partagé. Avant qu'il y ait les écrivains qui en fassent quelque chose qui sera transmis à la postérité, on lit encore des faits divers qui sont de Maupassant. Enfin, que Maupassant, La Petite Roque, c'est à partir d'un fait divers. Nous réunissons pour en parler, c'est-à-dire que nous en faisons un peu le roman de notre vie. Et c'est aussi en cette mesure-là que c'est important, parce que c'est là aussi où ça permet de franchir les générations.
Je vous soumets la réaction d'une auditrice. Voici ce que nous écrit Sandra. Contrairement à ce que dit votre invité psy, donc c'est vous, Patrick Avran, moi j'évite les faits divers parce que je m'identifie aux victimes, et en particulier en tant que maman aux parents des enfants de victimes. Mes réactions sont tellement fortes que ça provoque des douleurs corporelles et des cauchemars.
Absolument. Mais éviter les faits divers, ce n'est pas les ignorer. Ah. C'est-à-dire qu'effectivement, quelqu'un qui... ni ignore le fait divers...
A une relation avec lui.
Quelqu'un qui relation ne veut pas rejet, les voir, j'entends. Une relation de rejet. Mais c'est effectivement aussi le fait divers quand on est parent. C'est pour ça que c'est le fait divers qui sont les plus... Je disais, ils sont fondateurs de l'histoire des faits divers. C'est ce qui touche le plus les gens. Hein. Et quoi qu'il en soit, qu'on le veuille ou non, on l'entend. Hein. Je comprends tout à fait cette mère, je suis absolument tout à fait d'accord avec elle.
Réaction d'un auditeur sur Twitter à propos de l'affaire Dupont de Ligonnès. Si le mec a vraiment tué sa famille, écrit-il, pour réinitialiser sa vie avec une autre personne, alors c'est fascinant, c'est terrifiant mais fascinant. On est là dans la part de roman qu'on s'autorise quand on lit des faits divers, parce qu'on n'en sait rien finalement de ce qu'il est devenu, ce Xavier Dupont de Ligonnès, Michel Marie.
Pour moi, le plus probable, c'est qu'il se soit suicidé. Ça me paraît très compliqué que cet homme, après avoir commis, et peu importe d'ailleurs ce qu'il a commis, mais disparaisse. Non, mais
tout le monde
je
le cherche.
Parle sur un plan technique. Ce type disparaît du jour au lendemain. Il n'a a priori pas d'argent. Il n'est pas dans le milieu, donc il n'a pas de connexion qui lui permette d'aider dans sa cavale. De quoi vivrait-il ? Et comme tout le monde l'a diffusé en termes de photos, d'ADN, d'empreintes digitales, je pense que c'est mission impossible d'échapper, même s'il est parti à l'autre bout du monde, d'échapper au...
Mais il a échappé. Il a disparu.
Oui, il a disparu.
Mort ou vivant.
Moi, c'est moi, ça, je pense que je dis, d'accord, le mais ce que je dis,
ce qui nous passionne vivant. Dans le fait divers, c'est que justement, de toute façon, il a disparu.
Il a disparu, c'est on est d'accord. Mais pour moi, il s'est suicidé, c'est ça que j'étais en train de dire.
Pardon, Lola Costantini, la réalisatrice de l'émission, est fascinée par cette histoire du pont de Ligonnès. J'aimerais que vous me disiez, Patrick Avran, ce que ça révèle sur elle en particulier. La disparition, peut-être.
La disparition, un fait comme celui-là, ce qui est extraordinaire, c'est la disparition. On ne peut, c'est le seul mot que l'on peut mettre là-dessus.
Et puis le crime gratuit, enfin parce que peut-être que la grande fascination, c'est aussi ça, c'est l'idée de commettre des crimes et en plus de ne pas payer son tribut à la société.
Mais c'est altruiste.
C'est donc peut-être que la plus grande des fascinations, c'est ça, parce qu'il pourrait remettre sa vie à zéro d'une autre manière. En fait, il le fait aussi de cette manière-là. Mais ce qui me frappe aussi dans l'analyse, c'est qu'on voit bien comment nous, évidemment, nous analysons les faits divers avec notre prix. De la logique, de la cohérence, on dit voilà, non, il peut pas avoir, donc il s'est suicidé ou il peut pas avoir disparu. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, au contraire, le fait divers, puisque c'est ce que Barthes appelait une causalité aberrante, c'est que justement, c'est un enchaînement de faits qui n'ont pas de logique. Absolument. Et donc, c'est aussi pour ça que les écrivains s'y intéressent, parce que évidemment, ils utilisent d'autres prismes que sont notamment le prisme de l'imagination, et ils vont trouver des raisons qui sont en fait purement inimaginables, parce que dans le fond, c'est aussi ça la fascination du fait divers, c'est que ça résiste à la logique. Si c'était purement mathématique et logique et rationnel, finalement, ça nous résisterait moins. Et en fait, ça nous résiste parce qu'il y a quelque chose qui a décroché et qui est profondément irrationnel.
Mais alors justement, on parle tout le temps de la portée générale du fait divers, du fait que ça nous tend un miroir sur la société. Est-ce que c'est pas une façon tout simplement de se donner bonne conscience pour cette fascination un peu morbide ? Je me demande par exemple si on connaîtra mieux l'espèce humaine le jour où on saura vraiment ce qu'il est arrivé à Xavier Dupont de Ligonnès.
Ah, c'est sûr que ça nous dit la profondeur de la noirceur de l'être humain. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si actuellement les enquêtes policières, toutes les séries sur les détectives font un tel essor. Et sur quoi ils se basent, eux, sur des faits divers. Enfin, finalement, tout le principe de l'enquête policière qui fait un tel essor aujourd'hui marche parce qu'en fait, il y a des faits divers criminels. Et donc, évidemment, ça nous dit quelque chose de notre société, mais ça nous dit aussi quelque chose de notre réaction par rapport à ce phénomène-là, en fait, de la façon dont une communauté réagit. Hein. On parlait de l'affaire de la petite joggeuse tout à l'heure. Évidemment, tout le monde a vu l'image du mari en larmes, et évidemment, c'est aussi ça. Et ce qui est intéressant...
Le mari en larmes aux obsèques qui ensuite avoue avoir tué son épouse.
Et ce qui est intéressant, c'est la capacité à tromper. Vous remarquerez que là, ça déjoue toute logique ou toute cohérence apparente, et en fait, tout le monde est trompé par le fait divers. Et c'est aussi ça qui fascine, en fait, cette puissance de tromperie, j'ai envie de dire, du fait divers.
La musique programmée ce jour est volontairement très ensoleillée, vacancière, joyeuse. On file à la plage. C'était Vanessa Paradis à la plage sur France Inter. On approche de la fin de l'émission. Une toute dernière question pour mes invités.
Le débat de midi sur France Inter.
La question rituelle. J'aimerais connaître un sujet sur lequel vous avez changé d'avis. On commence avec vous, spécialiste de littérature, Frédéric Toudoir-sur-la-Pierre.
Oh, écoutez, je vais prendre un sujet complètement différent, oui. Peut-être. On pourrait parler de la Coupe du Monde de football. Vous voyez, on était resté l'année dernière avec une coupe très masculine. Et je trouve que cette année, justement, je me suis dit comment on va pouvoir renouveler l'engouement. Et
l'intérêt.
Je trouve que la Coupe du Monde féminine a porté ses fruits et m'a fait changer d'avis sur le football féminin.
Donc depuis que le foot féminin est à la une, vous vous intéressez au football?
En tout cas, je le regarde et on apprécie leur performance.
Même question pour l'enquêteur du nouveau détective Michel Marie. Un changement d'avis?
Au risque de vous surprendre, oui, change d'avis.
Comme de chemise.
Non, pas forcément comme de chemise, mais je pense que c'est un bon signe intellectuel de pouvoir changer d'avis. Je crois que le plus gros changement de cap dans ma vie, c'est, je vais revenir sur un aspect professionnel, c'était le procès de la Josacine. Ouais. Et je suis arrivé convaincu de la culpabilité de cet homme. J'ai assisté au procès qui a duré 3 semaines ou 1 mois, je ne me souviens plus, c'était à Rouen.
Et votre intime conviction a basculé?
Et au fur et à mesure, mon intime conviction a basculé jusqu'à la fin où il a malgré tout été condamné. Et j'ai, ce jour-là, changé d'avis, mais radicalement, en me disant, c'est, pour moi, il est innocent.
Même question pour le psychanalyste Patrick Avran. Sur quoi avez-vous changé d'avis?
Je me suis demandé en arrivant sur quoi j'allais vous parler, mm-hmm. Et puis en voyant le rouge, il y a quelque chose qui m'est venu.
Mais le ça rouge strict... qui indique qu'on est à l'antenne. Hein,
qu'on est à l'antenne et que les murs de votre studio sont rouges.
Le rouge du logo
et
France Inter.
Et ça quelque chose qui n'a strictement rien à voir. Mais en général, quand j'écris un livre, ça me permet, d'abord je ne sais pas ce que je vais dire, mais je change d'avis. Et j'ai écrit un livre sur la gourmandise. Et à cette occasion-là, j'avais dit les betteraves, ça sera jamais. Mais c'était quelque chose au plus profond inscrit de moi-même depuis ma plus tendre enfance. Et pour des raisons que je ne vais pas vous expliquer parce qu'il faudrait 25 ans de divan, j'ai changé d'avis. Et les betteraves, je trouve ça très bon.
Une psychanalyse de la betterave à venir bientôt aux presses universitaires de France. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Le fait divers et ses fictions, Frédéric Toudoir-sur-la-Pierre, est à lire aux éditions de Minuit. Un conseil très rapidement, qu'est-ce qu'on lit cet été? Un roman de faits divers?
On peut lire les notes sur l'affaire Dominici de Giono. C'est un très très beau texte, très émouvant sur Gaston Dominici.
Patrick Avran, les faits divers, une psychanalyse, c'est au PUF. Et le nouveau détective est en kiosque, Michel Marie, pour 1,70€, je disais tout à l'heure. Merci mille fois à tous les trois. Très belle journée à tous. Demain, on parle de vente d'armes dans le débat de midi. Changement de sujet qui est au cœur de l'actualité. La ministre des Armées, Florence Parly, sera auditionnée sur le sujet cet après-midi à l'Assemblée nationale. Faut-il plus de transparence en matière d'exportation de vente d'armes en France? Faut-il assouplir le secret défense?